Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. S'ouvrir sur le monde.
Vivre les différences.
Voir.
Sentir.
Toucher.
Entendre.
Regarde ailleurs, l'émission radio.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Depuis la sortie de son livre, Comme une feuille de thé à Shikoku, Marie-Edith Laval est sur la route pour des conférences et présente son pèlerinage sur l'île de Shikoku au Japon. Je l'ai rencontrée dans un café parisien pour lui poser quelques questions sur ses rencontres et son expérience de l'hospitalité japonaise. Pétrie de zen, dont elle pratique quotidiennement la méditation, Marie-Edith rayonne de cette douce et joyeuse lumière intérieure. Elle nous raconte dans cette émission de Rien d'ailleurs son itinéraire qui l'a menée en 88 temples sur le chemin de l'éveil. Voilà, donc je t'ai retrouvé dans un café, on est où là? Au plein centre de Paris, au Trocadéro, à la sortie du métro, tu m'as rejoint. Marie-Edith Laval, bonjour.
Bonjour.
Je sais encore pas grand-chose, mais avec les auditeurs, on va faire ta rencontre, on va un peu découvrir ton parcours. Je sais que tu as voyagé, je sais que tu as passé pas mal de temps au Japon, je sais que tu as marché sur un pèlerinage, les 88 temples, on en parlera. Mais avant d'en parler, d'aller avec toi au Japon, j'aimerais que tu te présentes un petit peu et que tu nous dises qui tu es et quel est ton lien avec le voyage.
Alors, d'un point de vue professionnel, comme souvent on commence par là, alors je suis orthophoniste. J'enseigne aussi la méditation de pleine conscience pour les enfants et les ados. Et je nourris effectivement une passion pour le voyage de longue date. Je pense qu'il s'est enraciné initialement dans la lecture de livres d'aventures, de récits de voyage, et que j'ai rêvé longtemps sur des noms un peu magiques, du style, je sais pas, Samarcande. Bon, on me dit Samarcande, ça y est, je suis partie. Ou, il y a plein de noms comme ça, absolument magiques, qui évoquent tout un lointain absolument fabuleux, ou en tout cas extrêmement attirant. Et donc voilà, mon désir de voyage, c'est avant tout enraciné dans la lecture de ces récits de voyage, avant qu'un jour je me dise, lire c'est bien, mais aller voir c'est encore mieux.
Donc c'était pas dans ta famille, t'es pas issu d'une famille de voyageurs, c'est vraiment toi qui a nourri ton imaginaire avec ces noms exotiques comme Samarcande, comme Zanzibar aussi, c'est un mot que j'aime beaucoup qui fait rêver.
Oui, tout à fait, oui, il y a des mots magiques comme ça, non, effectivement c'est vraiment, je suis pas issu d'une famille de voyageurs, après je pense que d'une famille qui a toujours nourri, en tout cas et alimenté la curiosité, l'émerveillement, mais voilà, ce désir c'est vraiment, je pense, enraciné dans la lecture.
Et la première alors, destination que tu as choisie sur cette carte du monde, c'était quoi? C'était où? C'était déjà le Japon ou il y en a eu d'autres avant?
Non, le Japon, je suis partie pour la première et unique fois au Japon l'été 2013 pour réaliser donc, le pèlerinage de Shikoku dont on parlera donc, probablement plus après. J'ai été amenée à partir, oui, Liban, Madagascar, en Indonésie, au Brésil, voilà, des destinations très diverses. Et à chaque fois, voilà, je rentrais absolument enchantée, avec du mal à revenir, après à retrouver un quotidien parisien, sédentaire. Moi, je pouvais passer des heures à rêver sur une map monde, et le voyage commençait déjà là, à rêver sur une map monde et sur tous ces territoires inconnus à explorer et à découvrir.
Et quand tu prenais la route, tu avais un projet derrière, un projet d'écriture, un projet de documentation, ou simplement voyager? C'était quoi le but, l'objectif pour toi quand tu prends le large?
Alors, j'étais pas du tout partie initialement, quel que soit le voyage, avec un projet d'écriture ou de réaliser un documentaire ou quoi que ce soit. J'étais vraiment portée par le goût de la découverte de l'ailleurs, du lointain, le goût aussi de la rencontre avec l'autre, le très différent de moi, de mon univers, et en même temps très différent et tellement semblable, ce goût de la découverte.
C'est la question que j'aime bien poser, c'est le mot voyage. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que c'est que voyager?
Moi, je dirais le mot qui me vient tout de suite, voyage, c'est jubilation. Alors voyager, qu'est-ce que ça représente? C'est ouvrir un horizon immense, infini, vaste, se rendre pleinement disponible justement à ce que l'ailleurs peut nous enseigner, à ce que la rencontre avec l'autre peut nous apprendre, pareil, nous enseigner, nous enrichir. Et réciproquement, il y a cette notion de pleine disponibilité, d'ouverture, de réceptivité, vraiment avec cette notion de gratitude, de jubilation, d'émerveillement. Voilà, le mot voyage m'évoque tout ça, il y a vraiment... Voilà.
Gratitude, émerveillement, contemplation, ça me fait aussi penser à la méditation de pleine conscience, tous ces mots-là.
Eh oui, tout à fait. La méditation, j'y suis vraiment venue en rentrant du pèlerinage de Compostelle. J'avais vraiment savouré pleinement ce temps passé à marcher dans cette modalité du pèlerinage, justement, qui est aussi bien un voyage extérieur qu'intérieur, un voyage au loin qu'un voyage en soi. Et du coup, c'est vrai que les retrouvailles avec mon quotidien là, parisien avaient été extrêmement difficiles et douloureuses. Assise toute la journée, voilà, les jambes me démangeaient et je me disais, j'arrivais plus à retrouver cette qualité d'émerveillement que j'avais vraiment pu ressentir très fortement sur ce chemin, et j'arrivais pas à la transposer, cette qualité d'émerveillement, dans mon quotidien. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, parce que ma vie avant tout, effectivement, ici, maintenant, là où je vis, voilà. Et la méditation s'est finalement proposée à moi dans ce contexte-là.
C'est vrai que sur le chemin de Compostelle, on va en parler un peu, c'est vraiment un univers, un microcosme à part entière, où tu viens avec ton sac, tu rencontres plein de pèlerins et tous les carcans sociaux tombent complètement. On s'en fout de savoir qui vient d'où, qui fait quoi. On est simplement là, sur le chemin, en train de marcher, de se retrouver, d'échanger. Le tutoiement est simplement normal, que tu sois fermier, ingénieur, c'est pareil, on est là pour marcher.
Exactement, oui, je te rejoins tout à fait. On est tous marcheurs, c'est vraiment ça, on est tous des marcheurs, on est tous des pèlerins, et la rencontre se fait très simplement, très directement, quelque part directement dans le vrai, l'authenticité de la personne, sans passer par des pseudo-masques sociaux ou d'identité qu'on s'est forgé ou que je ne sais quoi. C'est vraiment les premières questions, à la rigueur, c'est effectivement d'où tu viens, où tu vas. Et la rencontre, elle s'initie comme ça. Moi, à chaque fois, ça a été des très très belles rencontres, parce que je pense que les gens ne se mettent pas en marche non plus comme ça par hasard sur ce genre de chemin, et que c'est toujours à des moments un petit peu charnières de vie, des moments de transition. Du coup, des gens en quête de sens. Et du coup, bah, ces questions-là, les questions du sens, de la vie, au niveau à la fois dans la signification et en même temps dans l'orientation à donner à sa vie, ces questions-là surgissent très rapidement. Et je trouve ça extrêmement touchant et fort et puissant de pouvoir partager ça très rapidement avec des gens qui, 20 minutes avant, nous étaient inconnus.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
L'émission radio pour se découvrir soi.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Toi, qu'est-ce qui t'a lancé sur le chemin de Compostelle ?
Ben justement, une période de transition de vie. Oui, vraiment une période de transition de vie. Je venais me séparer de mon compagnon. Et l'idée, c'était débrancher la prise de tête pour rebrancher la prise de terre. Il y avait vraiment cette notion-là de revenir à un ancrage, venir les pieds sur terre et marcher. Voilà. Et je me suis dit, le chemin de Compostelle, j'en entendais parler depuis des années. Je trouvais ça avait l'air très chouette. Mais je me disais, c'est bien pour les autres, mais pas pour moi. Et puis, cette décision de partir s'est vraiment imposée à moi en l'espace d'une semaine. Je me suis dit, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et en une semaine, j'avais fait mon sac et je suis repartie. Et effectivement, ça a été un moment fort pour moi.
Tu as fait quel chemin sur Compostelle ? Tu es partie d'où ? Combien de temps tu as passé sur la marche ?
Alors, je suis partie du Puy-en-Velay jusqu'à Compostelle, Finistère, Mouchia après. Puis, je suis rentrée en bateau de Rironne jusqu'à Saint-Nazaire. Et alors, je l'ai fait en fait sur deux étés consécutifs. La première année, j'ai fait du Puy-en-Velay jusqu'à Ayres-sur-la-Dour. Et puis ensuite, l'été suivant, je suis repartie d'Ayres-sur-la-Dour et là, jusqu'au bout. Voilà, l'intégralité, j'ai plus le nombre de kilomètres exact en tête, mais c'était sur deux étés consécutifs.
Qu'est-ce qu'il en reste du chemin de Compostelle ?
Oui, une espèce d'élan et de vraiment mise en route vers quelque chose. C'était vraiment le premier pèlerinage en tant que tel que je réalisais sur du long terme, pour lequel je me mettais vraiment en marche aussi toute seule, même si c'est un fait que sur le chemin de Compostelle, on est plus seul rapidement, effectivement, on rencontre beaucoup de monde.
Je compléterai par le fait que quand on est en chemin, on se retrouve avec juste un sac à dos dans lequel on aura peut-être 10 ou 15 kilos. Et ça, c'est le seul bagage qu'on va avoir pendant plusieurs semaines. Et ça suffit et on se sent vivre. La dépossession, des fois, permet de se sentir vraiment exister, vraiment vivre. Et moi, ça m'avait apporté ça comme expérience, de me dire, mais en fait, on a besoin de pas plus que ça. Juste un sac avec l'essentiel suffit et on se sent vraiment vivant.
Oui, tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Cet allègement, pour moi, est mental aussi avant d'être matériel, mais la légèreté mentale, matérielle, tout effectivement est en résonance. Et oui, moi j'avais été effectivement très fortement touchée par cet allègement à tout niveau. Et puis le sac qui s'allège aussi en cours de route, hein. Et puis on est amené de temps en temps à renvoyer certaines choses. Et cette impression d'être encombré, au contraire, en rentrant dans finalement tout notre monde très matérialiste, en tout cas qui voudrait nous attirer dans cette... Moi, à chaque fois, en général, c'est des temps, les retours de pèlerinage sont sont des temps de gros allègements. Et avec cette notion, je pense à l'expression là, de Pierre Rabhi, la sobriété heureuse. Voilà, comme quoi, je pense que justement, le fait de s'alléger, de se désencombrer, permet de retrouver la magie de l'essentiel et de retrouver la petite vibration là, de l'enchantement.
Et trop s'encombrer de matériel, des fois, nous détourne d'une certaine réalité et nous distrait essentiellement, quoi. On nous distrait de notre esprit, notre mental, on prend plus le temps de se poser les bonnes questions et de réfléchir. Et toi, c'est peut-être la méditation aussi qui te permet de retrouver ça dans le brouhaha et dans la fourmilière parisienne.
Oui, c'est vrai, oui. La méditation, effectivement, c'est un bien grand mot, simplement derrière pour dire revenir à ce qui est là, ici, maintenant, sans porter de jugement de valeur sur ce qui est là, simplement, mais voilà, être dans la pleine présence à ce qui est. Et c'est ce retour, oui, exactement, un retour à l'essentiel.
Donc, tu as commencé le chemin avec Compostelle et après, on va partir maintenant ensemble un peu au Japon. Donc, Shikoku est venu plus tard, hein, c'est ça?
Oui.
Et comment est-ce que tu as entendu parler de ce pèlerinage au Japon, à Shikoku, qui est quasiment méconnu du grand public?
Et oui, alors, la graine a été semée sur le chemin de Compostelle, justement. Parce qu'en Espagne, j'ai rencontré un pèlerin japonais. Et comme ça se fait sur le chemin, voilà, on est amené à marcher une heure avec quelqu'un qu'on ne va plus du tout croiser par la suite. Et ça a été le cas avec ce pèlerin. On s'est croisés un jour, on a fait un petit bout de chemin ensemble et il m'a parlé de Shikoku. J'ignorais à peu près tout du Japon. Donc Shikoku, j'en avais jamais entendu parler, l'existence de ce pèlerinage encore moins. Et ce qu'il m'en avait partagé m'avait vraiment beaucoup intéressé et avait éveillé ma curiosité. Je m'étais dit, tiens, en rentrant, il faudrait que j'aille regarder un petit peu là, sur Google ce qu'il en est, ce Shikoku, de ce pèlerinage. Et effectivement, en rentrant un jour un peu de lassitude, là, enfermé entre mes quatre murs parisiens, je me suis dit, attends, c'était comment déjà ce pèlerinage Shikoku, cette île, le pèlerinage 88 temples? Et là, j'ai regardé sur Internet et ça m'a saisi. Et ça a été presque l'évidence, voilà, de me dire, ah mais c'est ça, l'été prochain, j'irai là-bas. Et je me suis pas posé plus de questions et l'été d'après, j'ai effectivement été là-bas.
Et là, tu te retrouves dans un univers, dans un contexte radicalement différent. Sur Compostelle, tu peux quand même partager beaucoup de choses grâce à la langue. C'est peut-être pas le cas à Shikoku, où les gens ne sont pas francophones et pas toujours anglophones non plus.
Oui, alors effectivement, donc francophone, non, absolument non. Anglophone, quasi non aussi. Donc moi, le japonais, je ne parlais pas du tout. Voilà, j'avais pas été plus loin que... J'avais quand même acheté une méthode de langue initialement en me disant, allez... on va essayer, puis prise par le temps, j'avais pas été plus loin que la première leçon, mais je connaissais par cœur le titre de la première leçon, c'était « Can I des », ça veut dire « Voici ma femme », ce qui n'était pas super utile pour partir. Et voilà, donc je suis partie juste avec ça, je me suis dit bah, « Je prends un petit lexique de poche et puis le chemin pour voir au reste et on verra bien ». Alors en fait, je crois que la langue est quand même juste une barrière qu'on se fixe soi-même, parce que sur place, je dirais pour les basiques et l'aspect très pratique, le petit guide de poche, et ben, on trouve plein de choses qui font l'affaire. Et puis après, en fait, j'ai beaucoup aimé justement cette rencontre qui passe au-delà des mots. Et pourtant, j'ai beau être orthophoniste, hein, donc les mots, le langage, c'est effectivement mon quotidien dans mon travail, mais j'ai lu des études qui disent que 80% de la communication est non-verbale. Donc ça relativise quand même beaucoup, beaucoup l'usage de mots en commun. Et je crois que justement, le fait de ne pas avoir de mots en commun a rendu toutes les rencontres que j'ai pu faire encore plus fortes. Comme si on touchait au noyau dur de la personne. Et même simplement, parfois, j'ai souvenir mais de moments qui restent extrêmement denses et vraiment gravés dans ma mémoire, des moments de rencontre dans le silence. Et des moments de marche, je pense à une pèlerine que j'ai rencontrée, puis que j'ai eu l'occasion de recroiser, puis on a marché toute une journée ensemble, quasiment dans le silence. Et en fait, c'était un silence d'une densité et l'impression d'être relié et connecté à un point que j'ai rarement connu. Tout ça au-delà des mots. Donc vraiment, en tout cas, la barrière de la langue n'en est vraiment pas une. Je crois qu'au contraire, elle ouvre sur une rencontre extrêmement riche.
Marie-Edith, donc tu rencontres sur le chemin de Compostelle un pèlerin japonais avec lequel tu échanges un petit peu. Il te parle de ce pèlerinage à Shikoku, les 88 temples. Tu rentres à Paris, tu te documentes sur internet et tu te dis « bon allez, j'y vais ». Comment on se prépare à partir au Japon, un pays que tu ne connaissais absolument pas ?
Alors j'avoue, j'ai pas fait grand cas de préparatif, justement pour préserver l'esprit du neuf, là, le regard un petit peu neuf qui découvre un environnement tel l'enfant de plein pied dans la réalité qui l'entoure, qui va découvrir et appréhender, simplement en passant par ses sens. Et j'ai beaucoup aimé cette découverte, justement, et ça m'en a amené l'impression d'être encore plus simplement dans l'instant, dans la pleine découverte, et puis... Oui, dans cet accueil, vraiment, et dans la pleine disponibilité, réceptivité, juste dans ce qui allait se passer. Alors effectivement, il y a plein de choses que je n'ai absolument pas comprises, mais c'était pas grave, juste l'accueillir tel quel, et vivre ce moment tel qu'il était, sans passer par le filtre du mental. Et pour moi qui suis quand même à la base pas mal dans du mental, je pense qu'on est nombreux à l'être, juste revenir à la pleine expérience du moment tel qu'il est. C'est aussi ce que prône la méditation, voilà, encore une fois, juste revenir à ce qui est là dans l'instant, sans porter aucun jugement sur ce qui est là. Donc les préparatifs ont été extrêmement, je dirais, limités. J'ai juste rencontré avant de partir un pèlerin qui s'appelle Léo Gantelet, qui avait réalisé ce pèlerinage quelques années auparavant, avait écrit un livre sur le sujet. Et donc je l'ai rencontré avant de partir et j'avais attendu de le rencontrer pour prendre mon billet d'avion. Voilà. Et juste ce qu'il m'en a dit, ça m'a encore plus que confortée dans ce désir d'aller là-bas. Et du coup, voilà, l'aventure a pris forme comme ça, mais... je suis partie vraiment avec beaucoup de légèreté et de confiance. Et vraiment, voilà, les maîtres mots confiance, abandon, dans ce que chemin allait me réserver.
Alors, tu arrives au Japon, tu arrives à Shikoku, tu fais partie des gaijin, hein, c'est le mot utilisé pour les étrangers ou les étrangères. Tu arrives au temple numéro 1 avec ton bâton et tu te dis « bon, allez, zou, j'y vais » ou « comment se passe l'accueil ?» Et quel a été le regard qu'ont porté les Japonais sur cette femme qui vient d'aussi loin et qui est gaijin et qui va faire le pèlerinage ?
Alors, juste effectivement, j'avais pris contact avant de partir avec une association de pèlerins de Shikoku et le directeur et un membre de l'association m'attendaient en fait à Shikoku quand je suis arrivée. Donc c'était super d'être accueilli comme ça. Donc j'ai passé la première soirée avec eux. Ils m'ont équipé parce que le pèlerin à Shikoku a une tenue bien spécifique. Il est habillé de blanc, donc au moins une veste blanche, puisque le blanc au Japon, c'est la couleur du deuil. Et symboliquement, revêtir cette veste blanche a beaucoup de poids et de sens parce que c'est mourir à son quotidien pour renaître à une autre dimension de son être. Donc pendant le temps de ce pèlerinage, s'extraire du grand tourbillon de sa vie pour renaître à une autre dimension de soi-même et de son être. Voilà, ils m'ont équipé avec la veste blanche, avec le bâton. Très important, le bâton aussi du pèlerin, comme pour Compostelle, hein, le bourdon qui représente Saint-Jacques qui accompagne le pèlerin. À Shikoku, le bâton représente Kukai, qui est le moine bouddhiste, en fait, sur les traces de qui l'on marche là-bas, qui a vécu à Shikoku au 8e siècle et est parti en Chine se former auprès d'un maître chinois, et d'où il a rapporté ensuite le bouddhisme et la branche du bouddhisme qui est toujours pratiquée aujourd'hui au Japon, le bouddhisme Shingon, le pèlerinage de Shikoku, on marche sur ses traces. Donc le bâton symbolise vraiment Kukai, ce fameux Kukai qui est aussi appelé Kobodaishi de son nom posthume. Aux côtés du pèlerin, il y a aussi le chapeau conique et puis un cahier de calligraphie qui est l'équivalent de la crédentiale pour le pèlerin de Compostelle. Donc, c'est-à-dire à chaque temple, le pèlerin va donner au calligraphe en fait, son cahier de calligraphie et pour recevoir la calligraphie du temple et valider son passage dans ce temple-là. Donc c'est une véritable œuvre d'art. Puis après, des bougies, des encens, enfin les objets rituels du pèlerinage. Et donc le premier jour voilà, de mon pèlerinage, donc, j'étais accompagnée du directeur de l'association de pèlerins de Shikoku, d'un autre membre de l'association, et puis ils avaient fait venir une télé de Tokyo. Donc j'ai marché la première journée avec une équipe de télé de Tokyo, donc c'était extrêmement drôle, parce qu'effectivement, bah, ils ne voyaient pas tous les jours une jeune femme occidentale, parisienne, débarquer comme ça pour faire ce tour-là. Donc ils étaient à la fois extrêmement étonnés, mais avec beaucoup de bienveillance, et très interrogatifs justement sur le fait de, sans être bouddhiste, en fait, qu'est-ce qu'on venait chercher sur ce chemin, enfin, voilà comment se sont effectués les premiers pas sur ce chemin.
Tu avais cette envie déjà d'écrire aussi, hein, parce que j'ai lu des articles de toi dans le magazine Ultraya, je crois que tu as publié un bouquin aussi. Hein.
Oui, j'ai écrit un récit de voyage justement sur ce pèlerinage là-bas, qui s'appelle donc « Comme une feuille de thé à Shikoku ». Et l'image de la feuille de thé, parce que à l'image donc, de la feuille de thé et de cet art traditionnel, rituel, ancestral japonais du thé et de la cérémonie du thé, j'ai vraiment eu l'impression d'être à l'image de cette feuille qui infusait sur cette terre bordée d'eau au fur et à mesure, au rythme de ses pas, au fil des jours. et à la fin du pèlerinage, de remonter un peu à la surface et de goûter mon quotidien avec de nouvelles saveurs, de nouveaux arômes, tels les effluves du thé et les saveurs du thé. Vraiment cette impression d'infusion, progressivement.
Et l'écriture, alors, t'as suivi pendant ton trajet ou tu as écrit à ton retour ?
Alors, je ne suis pas du tout partie avec le projet d'écrire. Par contre, je tenais un carnet de bord, mais à la base uniquement pour moi, pour me rappeler de... Je m'étais dit, je pars 2 mois, je serais certainement contente d'avoir une trace de mes premiers jours, des découvertes, des enchantements, des désenchantements, de tout ce qui allait pouvoir se passer sur ce chemin. Donc, tous les jours, voilà, j'écrivais dans mon journal. Et ce pèlerinage, moi, je l'ai vécu vraiment comme une aventure initiatique. Et ça a été tellement fort, c'est vraiment au retour où l'idée d'écrire et de partager, de témoigner, je pense à la phrase de Kenneth White, on ne peut aller et venir sans en toucher mot. Et je me suis dit, voilà, j'ai presque ressenti ce devoir de me dire, j'ai le devoir, vu cette aventure, d'en témoigner, de partager. Voilà, et peut-être que ça touchera d'autres personnes ou pas, mais en tout cas, presque cette nécessité intérieure de me dire, j'ai envie de le partager.
Redonne-nous l'éditeur et le titre du livre.
Alors, donc le titre, c'est « Comme une feuille de thé à Shikoku ». Il a été édité aux éditions Le Passeur et maintenant, il est disponible aussi en livre de poche et puis en édition allemande aussi. Et il a été traduit et publié au Japon maintenant. Donc, wow. L'aventure continue tout autour du monde.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs, l'émission radio.
À travers ton regard, je me découvre. Regarde ailleurs sur le chemin des différences.
Marie-Edith, j'aimerais que tu nous emmènes avec toi sur une journée type. Essaie de nous faire revivre une des journées de ce pèlerinage. Donc on est avec toi, on est au Japon, on est à Shikoku. C'est le matin, on va se lever ensemble. Donc quelle heure est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ?
Alors la journée commence assez tôt, en général vers 5h parce que... Alors moi je suis partie l'été en plein mois de juillet-août, donc il faut savoir qu'au Japon il fait très très chaud. Et puis surtout c'est pas une chaleur sèche telle qu'on peut connaître sous nos latitudes, c'est vraiment une chaleur moite, humide. J'étais là-bas, on était particulièrement chaud aussi, c'était la canicule pour eux. Donc c'est vrai qu'il faisait facilement 45 degrés et que ça multiplie un petit peu les kilomètres et les dénivelés par deux, au moins. Donc c'est vrai que le soleil se levant tôt, la journée démarre en tôt, c'est mieux. Parfois, on est dans un temple, parce qu'effectivement, certains temples accueillent les pèlerins et nous permettent d'assister aux cérémonies bouddhistes du soir ou du matin. Sinon, il y a pas mal d'hébergements vraiment à la japonaise, donc des auberges traditionnelles qu'on appelle les ryokan ou les minchuku. On dort sur les futons, sur les tatamis, il y a le traditionnel bain japonais. Après vient justement le moment très important du petit déjeuner là-bas, qui est un vrai éblouissement pour tous les sens déjà. Cet art et cette esthétique vraiment du japonaise qui est apportée à toutes les choses, même les plus prosaïques du quotidien. Donc c'est vrai qu'un assortiment de couleurs, un assortiment de petits plats, les différentes façons de cuire les aliments, enfin il n'y a vraiment rien n'est laissé au hasard. Donc la journée commence comme ça. Alors moi, en général, oui, souvent je marchais une trentaine de kilomètres par jour, mais il faut tenir compte du dénivelé. C'est vrai qu'à Shikoku, c'est une île, quand on regarde la maquette de l'île, c'est vraiment une île des montagnes qui sont immergées de l'océan, donc c'est vrai qu'il y a un dénivelé assez conséquent. Et après, c'est le principe du pèlerinage, un pied devant l'autre, et c'est parti, on marche. Et en fonction des jours, on rencontre des temples ou pas, puisque donc le pèlerinage circulaire, où le pèlerin passe par 88 temples. Par exemple, au début, la première journée, je me souviens, j'étais passée par 6 temples. Voilà, j'étais partie du temple 1, j'avais dormi au temple numéro 6. Et puis après, il y a des journées où finalement, on ne rencontre aucun temple. Et voilà, donc les journées se déroulent comme ça. Après, le soir, on est arrivé assez tôt aux hébergements. En général, avant 4 heures, nous attendent un bain. En général, ça y est, qui est préparé pour nous. Le thé, les gâteaux qui vont avec. À nouveau, le traditionnel repas à la japonaise. Et puis, le pèlerin est couché tôt pour pouvoir repartir le lendemain.
Quand tu dis le bain est prêt quand on arrive, ça veut dire que tu sais déjà où tu vas passer la nuit ? L'itinéraire est préparé ?
Alors moi, initialement, j'aurais bien aimé ne jamais avoir à réserver, me laisser porter par le chemin et me dire je m'arrête là où ça vient, selon l'envie du moment. Par contre, c'est pas dans la culture japonaise de ne pas réserver. Et ça fait vraiment partie des règles de politesse élémentaire de réserver là-bas. Donc voilà, je me suis pliée à cette règle-là. Donc j'estimais effectivement la veille où je pensais arriver et pour réserver à cet endroit le lendemain.
Et donc là, tu faisais ça en anglais. Les gens pouvaient...
Non, ça marche pas. En anglais, c'était pas possible. Alors j'avais essayé les premiers jours. Je me souviens, le premier jour, j'avais pris mon téléphone pour essayer de réserver. Donc je m'étais noté, voilà, de manière phonétique, les phrases pour réserver l'hébergement, etc., pour leur expliquer. Donc c'était pour le soir même. Donc je décroche mon téléphone, j'enchaîne très fièrement tout mon petit enchaînement de syllabes. Et puis forcément... La voix au téléphone répond, la voix me parle. Et là, du coup, forcément, je ne comprends rien. Donc, je répète, allez, à nouveau deux fois mon petit enchaînement syllabique. Et je remercie bien poliment avant de raccrocher, puis en me disant, on verra bien ce qui se passe le soir. Et finalement, ça avait fonctionné. Le soir, j'étais attendue. Déjà, ils m'attendaient, en fait, devant l'auberge. Et c'était très drôle. Alors après, je me suis dit, je ne vais pas faire ça tous les jours non plus. Et j'ai pris le pli après de faire comprendre à l'hébergement du soir est-ce qu'ils pouvaient réserver pour moi, appeler à tel endroit que je leur montrais sur la carte et réserver pour moi. Et en fait, après, quand c'était lancé, ça marchait super bien.
88 temples, ça prend combien de jours? 88 jours? Non, pas forcément.
Le chemin de pèlerinage fait 1200 km. Il faut compter une cinquantaine de jours.
Et le chemin, à proprement parler, donc moi j'ai souvenir avoir marché le long de certaines routes aussi.
Oui, alors c'est vrai qu'il faut savoir que ce n'est pas que bucolique non plus. Il y a des paysages absolument magnifiques de rizières, de montagnes, de bois, de forêts, de sous-bois, absolument enchanteurs, dignes d'estampes un peu à la japonaise telles qu'on peut les avoir tous en tête. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup de goudron, il y a aussi beaucoup de tunnels. Il y a plein donc de passages qui ne sont absolument pas bucoliques et que parfois on trouve très longs. Et en même temps, d'un point de vue symbolique, même si j'ai souvenir de traverser de tunnels, je pense à un tunnel qui est long de 5 km. Donc en marchant, on est pendant une heure, on marche dans un tunnel frôlé par des monstres d'acier là, qui manquent de nous écharper à chaque pas parce qu'il n'y a pas du tout de protection, il n'y a rien. On est dans les pots d'échappement, on est dans ce tunnel noir, on est... Parfois, c'est vrai qu'on serait tenté de se dire « Non, mais j'arrête une voiture et voilà, que la voiture me fasse traverser ce tunnel et que j'arrive au grand air de l'autre côté. » Et puis, moi, je les ai vraiment accueillis, tous ces tunnels et toutes ces zones beaucoup moins bucoliques, un petit peu à l'image du pèlerinage de la vie. Je dirais, j'ai vraiment superposé ce chemin de pèlerinage et le pèlerinage de la vie en me disant oui, je crois qu'on est tous amenés dans nos existences là, à traverser des paysages idylliques, des moments absolument charmants et délicieux. Et en même temps, nos tunnels, nos moments de doute, nos moments difficiles, nos chemins escarpés, tout ça. Ces tunnels, pour moi, je les ai vraiment intégrés comme ça. Et en me disant, ils ont aussi à être traversés. Et finalement, en les traversant, le ciel de l'autre côté, on le regarde différemment, peut-être comme jamais on l'avait vu avant. L'air qu'on respire, peut-être qu'on le respire, qu'on le goûte, qu'on le savoure autrement. Après avoir été enfumé comme ça sous ces tunnels. Et peut-être que tout, justement, prend une autre teinte, une autre saveur, une autre couleur. Et donc, je me suis dit, ils ont à être traversés, ne serait-ce que pour vivre tout ça. Et comme la vie aussi, je pense, nous enseigne beaucoup à travers tous les tunnels qu'on peut tous traverser et nos moments beaucoup moins bucoliques.
Ce que je trouve génial en t'écoutant et dans ton aventure, c'est que tu t'es aussi donné les moyens de réaliser tes rêves. T'as voulu faire Compostelle, tu l'as fait. T'as eu l'envie de partir au Japon, faire un pèlerinage, tu l'as fait. C'est quoi le prochain rêve que tu vas réaliser?
Alors déjà, je crois que c'est le chemin de chaque jour ici et maintenant. Voilà. Et ça, c'est vraiment... Le chemin de Shikoku m'a vraiment ramené à mon quotidien aussi. Alors, je ne suis pas du tout en train de faire l'apologie de la sédentarité ou du non-voyage. Non, absolument pas. Je reste toujours absolument fascinée par le voyage et la découverte du lointain. Mais ce pèlerinage m'a vraiment ramené à l'aventure de la vie au quotidien, là où sont mes pieds, là où je vis. Et ça, pour moi, c'est une grande aventure.
Merci Marie-Édith.
Mais merci à toi, c'était un plaisir.
Regarde ailleurs, l'émission radio. Sur le chemin des découvertes.